Vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans.
Vous ne parlez rien, Godard. Vous devez savoir.
Les 400 coups. L'émission ciné des 400 coups.
De 17h30 à 18h.
Tous les premiers mercredis du mois sur Radio Campus.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les 400 coups, l'émission radio des cinémas. Les 400 coups, bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers sur le 103 FM. Salut Cécile, comment ça va en ce petit mois de juin ?
Mais ça va très bien, Georges. Alors, est-ce que tu as suivi cette 77e édition du Festival de Cannes ?
Oui, j'ai vu que Sean Baker avait reçu la palme. J'ai vu ses précédents films, Florida Project et Red Rockets. Il y a pas mal d'humanité dans son cinéma, donc je suis plutôt impatient de découvrir tout ça. Alors, au sommaire de cette dernière émission de la saison, on démarre sur les chapeaux de roue avec vos retours sur le très attendu Furiosa de George Miller.
Et Xavier Massé, secrétaire général premier plan et membre de l'équipe 400 coups, était présent sur la croisette. Il nous partage ses coups de cœur cannois. Et puis, comme tous les étés, il vous donne rendez-vous fin août pour l'immanquable estival de premier plan. Il vous en parle.
Enfin, nous terminerons avec les avis de nos spectateurs sur le dernier du pieu. Et puis, bien sûr, les événements à ne pas manquer de cet été.
En one shot, je dirais que le film est excellent. Les musiques sont peut-être pas aussi bien, ou en tout cas sont quasi identiques. Le casting est incroyable. Les 2h30 se tiennent, mais c'est nickel. On s'ennuie pas du tout. On ne s'endort pas du tout. Très très bon film.
On fait vraiment une claque esthétique comme dans le 1, même s'il y a des moments un peu où on se dit que le film n'était pas très bien été fait. Mais ouais, le rythme est génial quoi. Et j'ai plus pris ma claque que sur le 1.
Étant une très grosse fan de Fury Road, de base, j'attendais vraiment beaucoup cette suite. Et j'attendais surtout Anya Taylor-Joy en Furiosa. Je me disais qu'est-ce que ça donnait, et Chris Hemsworth aussi, je me disais qu'il tiendrait peut-être pas son rôle, et je trouvais que ça était peut-être le rôle de sa vie. J'ai jamais trouvé qu'il était aussi bon que dans ce film, et même avec, comme d'habitude dans les Mad Max, il y a très peu de dialogue, et t'arrives à avoir de la peine pour chaque personnage, tout ressentir, c'est très fort. En fait, on sent juste qu'il prend trop son pied, le réel. Il kiffe ce qu'il filme, et c'est vraiment un univers qu'il maîtrise de A à Z, et vraiment ça se sent que bah, c'est vraiment du pur fun pour lui quoi, de faire ça. Il y a, alors moi je trouve quand même moins bon que Fury Road sur plein d'aspects. Par exemple, les musiciens sur les voitures, les scènes d'acrobatie, même si on avait des folles dans le film, avec des parapentes et autres choses volantes. Mais c'était vraiment... Ah ouais, non, c'était une claque. Une giga claque aussi pour moi.
Complètement impressionnant le film, clairement. Je rejoins mes collègues. Anya Taylor-Joy, impressionnante. Chris Hemsworth aussi. Je trouve qu'il signe un de ses meilleurs rôles. C'est une preuve quand même que quand il y a un bon réalisateur, les acteurs sont juste mis à la perfection en fait dans leur film. Vraiment le film impressionnant. Même les scènes d'action, quoi, ça pétait de partout. Les visuels, surtout les visuels, la photographie est magnifique. Encore une masterclass en fait de George Miller.
Alors vous venez d'écouter les avis de nos spectateurs sur le dernier Mad Max. Plutôt de très bons retours. Toi Cécile, t'es un petit peu plus sceptique sur Furiosa, pardon ?
Alors oui, un peu moins emballé. Après moi j'ai jamais vu les trois premiers volets. Je crois qu'on peut voir Fury Road et Furiosa sans avoir vu la trilogie. Mais du coup je pars un peu en allant voir les films avec une connaissance un peu faible de l'univers. Et donc moins facile de se plonger dans le film forcément. Des fois j'étais un peu perdue sur les personnages, les clans. Ça m'a un peu sorti du film au début. Et puis pendant la première partie en plus Furiosa ne parle quasi pas. Elle est vraiment spectatrice de ce qui se passe durant au moins une bonne heure je dirais. Mais bon, une fois que l'on rentre vraiment dans le gros du personnage, là, ça devient intéressant. Parce que toute cette première partie de son enfance, quand même, elle reste indispensable pour comprendre les enjeux. Après, pour moi, le plus gros du film, c'est vraiment la relation entre Furiosa et Dementus. Et tout particulièrement, la scène finale qui oppose les deux personnages que j'ai vraiment adoré. Un dialogue super intéressant. Et c'est d'ailleurs le seul vrai dialogue de Furiosa, ce qui rend vraiment plus impactant. Et donc, je rejoins les avis précédents énoncés sur Chris Hemsworth, qui, en fait, nous livre une belle performance en méchant un peu décalé, drôle. Le seul but pour lui, c'est vraiment de s'amuser, alors que le reste de l'humanité cherche juste à survivre ou à se sacrifier. Bref, je valide, mais si vous n'êtes pas un fin connaisseur de l'univers Mad-Maxien, il faut rester accroché aux 2h30 et à l'action à gogo. Et toi, Georges, tu l'as trouvé un peu long, non ?
Oui, un peu. Je trouve que la dernière demi-heure s'essouffle un peu. J'ai eu l'impression que c'était un petit souci de scénar. Le film est moins définitif que Fury Road, mais s'inscrit complètement dans l'univers Mad Maxien. Évidemment, c'est une claque visuelle. George Miller a eu quelques imprévus et notamment des problèmes de lieu de tournage, mais il a réussi brièvement sa mission. Il a quand même tenu à filmer le plus naturellement possible, et cela se ressent dans les explosions et les décors.
En bref, je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.
Et comme on vous l'a dit dans le sommaire, Xavier Massé était à Cannes. Qu'en a-t-il pensé? Quels sont les films qu'il a préférés? Était-ce une bonne édition? Est-ce qu'il a croisé Messi? Alors pas le footballeur, mais le chien d'anatomie d'une chute. Bref, il nous raconte tout sur les ondes de Radio Campus. Extrait. Salut Xavier, merci d'être avec nous pour nous parler un petit peu de cette dernière édition de Cannes. Toi tu y étais, alors comment s'est passée cette édition et est-ce que c'était une bonne édition?
Ah oui, c'était une très bonne édition, c'était la 77e. Comme toujours intéressant de voir ce festival être toujours aussi au devant de la scène malgré son grand âge. C'est toujours un événement incroyable qui rassemble toujours autant de cinéphiles, de professionnels. Il y avait plus de 20 000 inscrits au marché du film cette année. Des gens de tout horizon, de toute la filière, l'exploitation, la production, la diffusion, comédiens, des techniciens, enfin, une fois, une édition qui a permis à la grande famille de cinéma de se réunir et puis de découvrir des propositions qui venaient du monde entier. Et donc, ce festival, bah, c'est plutôt très bien passé, avec beaucoup de propositions intéressantes. De notre côté, côté 400 coups, beaucoup de rencontres aussi faites pour préparer la saison. Il faut savoir que Cannes, c'est un moment où on prépare aussi l'année à venir, la rentrée au mois de septembre, et puis les mois qui viennent, on en reparlera tout à l'heure avec les films qui seront sur nos écrans, mais c'est aussi un moment où la profession se retrouve pour parler des sujets d'actualité, voilà, des sujets d'actualité qui animent cette filière, les sorties, les problématiques professionnelles, les enjeux de commercialisation, les enjeux de sortie, la pluralité des films. C'est toujours un moment très intéressant, et il y a aussi des échanges avec des gens qu'on ne peut pas voir de manière assez fréquente, et Cannes, c'est un moment où on se retrouve dans la profession pour échanger sur tous ces sujets, et ça donne une ambiance très particulière entre découverte de films qu'on découvre comme la plupart dans des salles parce que c'est des films inédits, échange autour de ces films et puis perspective d'exploitation et de diffusion sur les écrans, c'est des échanges toujours très productifs.
Donc t'as pu voir, j'imagine, quelques films. Est-ce que tu as des coups de cœur à nous faire partager?
Alors j'ai vu quelques films, pas autant que j'aurais voulu, puisque effectivement, encore une fois, à Cannes, c'est un moment où on voit des films. C'est surtout un moment où on voit des professionnels, en ce qui me concerne en tout cas, pour échanger sur nos actualités et sur nos outils à venir. Et j'ai deux coups de cœur. Le premier, c'est un film qu'on a pu voir jusqu'au dernier moment, parce qu'il n'y avait plus de place tellement il avait été pris d'assaut par la profession. C'est l'histoire de Souliman, de Boris Lofskin, qui est assez bien connu à Angers, puisqu'il a été primé pour son premier film. Boris est venu au mois de mai, début mai, présenter Camille. Il avait quitté son montage pour nous retrouver, pour marquer cet hommage de sa présence. Et donc c'est un film remarquable, un film qu'on va découvrir au mois de novembre, qui est dans la veine de Boris, de la sincérité, de l'émotion et une profondeur de point de vue qui va, je pense, éclairer nos spectateurs d'une réalité qu'on pense connaître, mais qu'on connaîtra encore mieux, à travers notamment le jeu de comédiens formidables. Donc au mois de novembre, voilà, c'est mon prix de cœur. Le jury d'un certain regard, une section de Cannes s'y est pas trompé puisqu'il a remis un prix, et on aura le plaisir aussi de découvrir ce film qui a été co-écrit avec quelqu'un qui connaît bien Angers puisqu'elle s'appelle Delphine Lagutte et elle était programmatrice à Premier Plan. Donc ça, c'est un coup de cœur vraiment incontournable, un film qu'il faudra découvrir sur nos écrans. Et puis un autre coup de cœur aussi, c'est un premier film plein de fraîcheur, plein d'allant, plein de sentiments et plein d'émotions, qui s'appelle La Pampa, qui a été réalisé par Antoine Chevrolier, qui a été programmé à la semaine de la critique, excusez du peu, hein, la semaine de critique, c'est une dizaine de films programmés à travers la production mondiale. La Pampa a été présentée par la semaine de la critique à Cannes, donc c'est déjà incroyable, et c'est bien mérité parce que ce film est porteur de belles promesses, avec une proposition, un geste cinématographique, des comédiens remarquables, une thématique que je ne vous dévoile pas, mais que vous découvrirez, un très très beau premier film qu'on aura le plaisir de montrer ici au 400 coups. Et il a été tourné à côté d'Angers, et on aura le plaisir, j'espère, d'accueillir les protagonistes du film, mais aussi tous les gens qui ont contribué à sa production là-bas, à Longueuil, je crois. Et mon plaisir à accueillir, j'espère, le réalisateur et toute son équipe. La Pampa, un vrai coup de cœur.
Très bien, donc des sorties prochaines, est-ce qu'il y en a d'autres finalement qui vont sortir au 400 coups ?
Cannes, c'est là où se dévoilent les films pour les mois à venir. C'est là où effectivement les programmateurs du monde entier viennent les découvrir, notamment en France. Et ces films, bah, ils vont apparaître progressivement sur nos écrans. On l'a commencé dès le lendemain du festival, hein, avec le Dupieux, qui est sorti quasiment simultané après sa première projection. On l'a continué cette programmation en complémentarité de Cannes et quasiment de manière simultanée avec Marcelo Millo de Christopher Honoré, quelqu'un qu'on connaît bien aussi à Angers puisqu'il est venu présenter plusieurs fois ses films et il a été président du jury Premier Plan et c'est un ancien lui aussi collaborateur du festival. Donc voilà, on était un peu en famille à cette projection. Et puis bah, les films qui sont dans les sections officielles, les sections parallèles, et bah, ils sont amenés à sortir sur nos écrans. Et bah, parmi les films qu'on découvrira, évidemment, il y a les films qui ont été, comment dire, repérés par le jury, comme Emilia Pérez, voilà, incarnée par son actrice transgenre et qui a été récompensée par un prix, c'est formidable. La Palme d'Or, Anora, hein, qui a créé une surprise quand même, qui est une manière aussi de récompenser pour le jury le cinéma indépendant américain. Il y a un film qui sera attendu, même si il a créé quelques remous à Cannes, The Substance, voilà, puisqu'il a été effectivement lui aussi primé, même si plusieurs personnes ont vu le film et en sont sorties quelque peu décontenancées, voire même un tout petit peu secoué, puisque c'est un film extrêmement gore, on va dire. Évidemment, il y a des films coup de cœur. Il y a un film coup de cœur du programmateur Didier des 400 coups qui s'appelle Graines du figuier sauvage. Voilà, donc ça, c'est magnifique. Et évidemment, le très beau film indien qui a été primé, vous l'avez vu, All We Imagine as Light. Et c'est des films qu'on découvrira tout au long de l'été et de l'automne. Il y a d'autres choses, hein. Je l'ai cité, l'histoire de Suleiman. Vraiment, encore une fois, j'insiste, ça sera un film de cet automne. Le Vin Dieu, un film qui lui aussi a été primé. Un film d'innovation qui s'appelle Flow. Il y aura le brillant film de Alain Guiraudy, Mireille Zécord, qu'on connaît bien aussi. Et puis le Grand Prix Un Certain Regard comme Black Dog. Donc beaucoup de films à découvrir, avec évidemment quelques pépites qui ont été vues à la quinzaine, comme La Prisonnière de Bordeaux, Ma Vie, Ma Gueule, de Sophie Filière. Découvrir aussi un film un peu décapant comme Les Pistolets en plastique, qui parle d'une actualité un petit peu, on va dire, criminelle, assez proche d'Angers. Voilà, j'en dis pas plus. À Cannes, beaucoup de films ont été programmés dans toutes les sections et des films à destination du jeune public. Ça aussi, ça va alimenter notre programmation dans les mois à venir. Je découvrirai aussi un film qu'on a bien aimé qui s'appelle En fanfare, un film vibrant de réalisateur qu'on connaît bien aussi puisqu'il est venu présenter plusieurs fois ses films aux 400 coups, Emmanuel Courcol.
Comme toutes les années, il y a les estivales pour Premier Plan. Que tu peux nous dire un petit mot sur les estivales de cette année 2024 ?
Alors, l'estival, c'est le rendez-vous de rentrée de Premier Plan et des 400 coups, qui travaillent ensemble pour faire en sorte que, après un été, on va dire, reposant, on retrouve le chemin des salles, qu'on retrouve aussi ces films sur notre écran, et surtout qu'on se retrouve autour de ces films en salle et en présence des équipes. Voilà, c'est des moments privilégiés où on commence très bien l'année avec des rencontres très intéressantes autour de films en avant-première, présentés par leurs équipes, les réalisateurs, mais aussi les comédiens, les producteurs. Et c'est à chaque fois des moments d'exception. On va découvrir donc des avant-premières de films qui ont été montrés à Cannes. Donc parmi les films que je vous ai cités, il y aura très certainement certains d'entre eux qui seront là, présentés du 26 au 30 août au 400 coups. Mais aussi des films à découvrir, des films réalisés, produits par des talents qui exercent en Pays de la Loire, des courts-métrages, des longs-métrages, des documentaires, des films d'animation. Bref, toute une semaine du matin au soir, aux 400 coups ou chaque jour des propositions différentes à découvrir, mais avec toujours l'idée de se retrouver avec des films innovants, singuliers, en présence de leurs équipes et ensemble sur grand écran pour bien commencer l'année.
Et ben merci Xavier, est-ce que tu as un petit mot de fin à nous dire ?
Cannes, c'est la fête du cinéma, vive le cinéma et au plaisir de vous retrouver dans nos salles autour de tous ces films qu'on vous a présentés et puis tous les autres, parce qu'il y a Cannes, mais aussi tous les autres films qui viennent sur nos écrans tout au long de cet été et cette rentrée.
Merci Xavier.
Plein de jolis films donc en compétition à Cannes que l'on retrouvera très prochainement sur nos écrans. A commencer par le très attendu Kind of Kindness. Après le tout récent Pauvre Créature qui avait beaucoup fait parler, Yorgos Lanthimos nous revient avec cette fable découpée en trois histoires différentes. Un homme sans choix qui tente de prendre le contrôle de sa propre vie, un policier inquiet parce que sa femme disparue en mer est de retour et qu'elle semble une personne différente, et une femme déterminée à trouver une personne bien précise, dotée d'un pouvoir spécial, destinée à devenir un chef spirituel prodigieux.
Et au casting, on retrouve de nouveau la belle Emma Stone, qui a fait briller le tapis rouge la semaine dernière, mais aussi ses deux compatriotes qu'elle retrouve ici dans des rôles différents, William Dafoe et Margaret Qualley, ou encore Jesse Plemons, qui nous avait bien marqué dans le récent Civil War, et qui vient tout juste de remporter la palme du meilleur acteur pour Kind of Kindness, qui donc, de Yorgos Lanthimos, pardon, s'est retrouvé aux 400 coups à partir du 26 juin.
Deuxième sortie attendue de ce festival, Le Comte de Monte Cristo de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, réalisateur du prénom. Pierre Ninet enfile la cape pour reprendre le rôle du très célèbre comte. Victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger des trois hommes qui l'ont trahi. Avec également au casting Bastien Bouillon, La Nuit du 12, et Anaïs Desmoustiers, que l'on présente plus, sortie prévue le 10 juillet.
Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerai trop.
Non, pardon. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important, et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. Et je suis désolé de te contredire, hein, mais c'est ça la vraie histoire. C'est l'histoire de Guillaume. Hein.
Si je puis me permettre, Guillaume, l'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage, qui est un jeune plein de tonus et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables, disons.
N'importe quoi, non mais n'écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons.
Non, mais sans déconner, fermez vos gueules un peu, là. Le vrai héros, c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout.
Et oui, il a fait l'ouverture de Cannes quelques mois seulement après Dali, qui s'est fait plutôt discret qu'Yannick. Quentin Dupieux revient avec le deuxième acte. On retrouve bien évidemment, comme toujours chez Dupieux, un casting 5 étoiles, Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel ou encore le tout récent Raphaël Quenard.
Le pitch est simple, Florence veut présenter David, l'homme dont elle est follement amoureuse, à son père Guillaume, mais David n'est pas attiré par Florence et souhaite s'en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy. Les quatre personnages se retrouvent dans un restaurant au milieu de nulle part. Primo, Claire et Élise nous livrent leur ressenti sur le film, attention petit spoil entre 2 minutes et 2 minutes 20.
Claire, un petit retour sur ce Dupieux. C'est un film que j'ai trouvé assez intéressant, surtout dans sa mise en scène et dans son propos. J'ai bien aimé le fait que le film posait beaucoup de questions justement sur des petites choses très actuelles, et notamment tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. C'était assez intéressant et c'était bien amené. Encore une fois, moi j'aime beaucoup le travail visuel de Quentin Dupieux. Je trouve qu'il a vraiment un goût pour l'esthétique et les choses simples, mais qui sont vraiment impactantes visuellement. Après, je suis jamais très fan de son propos et de son humour, même si parfois je trouve que c'est très bien amené, il me manque toujours ce petit truc pour vraiment apprécier le film à 100%. Notamment, le film est un peu compliqué à comprendre, on sait jamais vraiment sur quel ton on est, notamment parce que le film casse parfois le quatrième mur. Et du coup, c'est un peu complexe de savoir où on en est avec les personnages, de bien les interpréter. Surtout dans ce film, c'est un petit peu compliqué de rentrer dedans. On sent qu'on veut nous y intégrer, mais d'une certaine manière, on est un peu mis à l'écart parce qu'on peut moins comprendre les personnages. Mais sinon, je pense que c'est un film qui est sympa. Sa durée est aussi intéressante parce que ça permet de parfois se motiver aussi à aller voir des films plus courts, dans ces cas-là, de voir des nouvelles choses. Je pense quand même que Quentin Dupieux, il est très intéressant pour le cinéma français. Il arrive toujours à se renouveler, je trouve, et ça c'est assez intéressant, et de revoir parfois certains acteurs dans des genres très différents, notamment là Raphaël Quenard qui a un rôle un peu particulier, surtout à la fin. C'était intéressant parce que c'est le genre de registre dans lequel on n'a pas l'habitude de le voir, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Globalement, j'ai bien aimé le film, j'ai passé un bon moment et puis je pense que je peux le conseiller à tout le monde, surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous. C'est un film qui est rapide et qui sera toujours chouette à regarder et qui fait sourire, je trouve.
Et ben, j'ai vraiment apprécié ce nouveau Dupieux. Ça me fait plaisir parce que j'avais pas du tout apprécié ses derniers opus. Je trouvais qu'il y avait vraiment une qualité d'écriture assez nouvelle, autant dans les dialogues que les blagues en général ou la manière de construire le film. Il y a une réflexion assez étrange, de sorte de fausse analyse de de la vie d'acteur, de l'IA, des influences que ça peut avoir et de l'avenir de l'art finalement. Mais ça ne veut pas tellement analytique. C'est plutôt, je passe une sorte d'analyse d'analyse hyper intéressante et la scission entre le jeu entre le jeu d'acteur, le non-acting qui est en fait de l'acting parce qu'à la fin du film du coup on voit que tout était filmé depuis le départ et qu'à la fin en même temps ils repartent dans leur vie, ils repartent dans leur vie de tous les jours. Je trouvais que il y avait vraiment un parti pris dans le jeu d'acteur qui était assez différent entre les trois parties et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est fou de dire ça d'un film d'autre pieux, je pensais pas dire ça un jour. Et ouais, ça fait plaisir, c'est cool, je trouve. Il se renouvelle un peu, toujours ça on le sait, mais là c'est vraiment le film de la maturité finalement.
Ce que j'ai pensé du Dupieux, bah, j'étais sceptique au début par le dispositif des premières séquences. Et puis finalement, on se laisse happer par un espèce de twist qui éclaire tout, avec un mélange d'irrévérence et de malice. J'aime bien comment il casse les codes, toujours, du cinéma. C'est super ludique, c'est super... Enfin, moi, je me régale, quoi. C'est un millefeuille de mise en abîme. C'est pour dire le nombre de couches de lecture qui sont présentes dans son film. C'est super.
Et on est un peu perdu entre le fait de se demander si c'est pas un peu un film de boomer, si c'est pas un peu le film du quarantenaire parisien sur l'homosexualité, sur l'appartenance ou non. Et tout ça est remis en question par les questionnements par rapport à l'IA, à comment il construit son film. Donc on est un peu perdu et c'est pas déplaisant non plus de se dire que c'est ni l'un ni l'autre.
Alors moi je suis plutôt d'accord avec eux, j'ai adoré les thématiques abordées. Dupieux souhaite vraiment mettre un pied dans la fourmilière et parler des sujets qui fâchent. Et surtout, il nous questionne sur cette interrogation que l'on se pose tous, est-ce que l'on peut rire de tout et de tous ? Les acteurs jouent dans l'ensemble très bien, dans leur quasi-caricature d'eux-mêmes, excepté peut-être Louis Garrel qui selon moi surjoue un peu dans le premier quart d'heure, mais qui, on ne va pas se mentir, porte quand même très très bien le col roulé blanc. Je ne m'attendais à rire un peu plus, mais comme souvent chez Dupieux, j'esquisse un petit sourire tout au plus. La fin est pour moi... pas très long pour une fois, et dirons-nous que pour un Dupieux c'est plutôt appréciable, et la courte durée est également plutôt pas mal, 1h20 ici qui passe assez vite.
We'll be right back.
venez d'écouter Small Town Boy de Bronski Beat, interprété par le génial Jimmy Somerville, morceau qui accompagne la bande-annonce du film Love Lies Bleeding de Rose Glass.
Alors c'est le deuxième film de la réalisatrice après Saint Maud, son premier long métrage mélangeant l'horreur, le drame et le fantastique, et qui a d'ailleurs remporté le prix du jury à Gérameur en 2020.
Elle revient donc cette année avec Love Lies Bleeding, où Kristen Stewart interprète Lou, une gérante solitaire d'une salle de sport qui tombe éperdument amoureuse de Jackie, une culturiste ambitieuse interprétée par Cathy O'Brien. Leur relation passionnée et explosive va les entraîner malgré elle dans une spirale de violence, et c'est à retrouver sur nos écrans à partir du 12 juin.
I can't run this club forever. I built this for nothing. This is our family.
Des motos, Austin, Elvis Butler, le bon vieux Tom Hardy, le gars dans The Challengers, enfin il a un prénom, c'est Mike Faced, et oui, c'est le dernier Jeff Nichols. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas, il a réalisé Mud, une histoire de Bayou avec Matthew McConaughey, mais aussi Take Shelter, l'éco-schizo-thriller où l'on retrouve également Michael Shannon.
Il nous revient donc avec The Bike Riders. Nous sommes en 1965, au fin fond du Midwest. Alors que les motards accueillaient tous ceux qui avaient du mal à trouver leur place dans la société, les Vandals deviennent une bande de voyous sans vergogne. Benny devra alors choisir entre Cathy et sa loyauté envers le gang. C'est à partir du 19 juin, et c'est sur nos écrans, et c'est aux 400 coups.
Ici Joie, en direct live de l'esprit de Riley.
Faites du bruit pour notre champion.
Tristesse est dans la place.
Voici colère.
Je vais me les faire. Pour la dernière fois, j'exige notre protège-dents.
Non, recrachez pas nous.
Dégoût. Heureusement qu'on t'a dans l'équipe.
Notre petite Riley grandit tellement vite.
Désolée.
Je vois vraiment pas ce qui pourrait arriver.
Salut. Je suis anxiété.
Le changement, ça fait peur.
À nous tuer.
Il nous faut de nouveaux amis, sinon on va se retrouver toute seule au lycée. Faisons table rase du passé. Riley a besoin d'émotions plus sophistiquées que vous.
Une autre sortie très attendue, comme vous avez pu le reconnaître, le prochain Disney avec la suite de Vice Versa, que nous sortons en décalé le 3 juillet prochain. Au casting, des voix françaises d'exception, avec comme pour le premier volet, Pierre Niney, Charlotte Lebon, Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos.
Et oui, dans le premier volet, nous avions laissé Riley avec ses émotions d'enfant. Cette fois-ci, alors qu'elle fête ses 13 ans, elle commence à ressentir des émotions qu'elle ne connaissait pas. Joie, tristesse, colère, dégoût et peur vont voir leur quotidien bouleversé quand de nouvelles émotions débarquent.
Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Nous faisons une petite pause cet été, mais nous revenons très vite à la rentrée pour vous parler de l'Estival Premier Plan avec des interviews exclusives de réalisateurs et d'acteurs. On vous souhaite un très bel été.
Bien sûr, vous retrouverez notre programmation et tous nos événements sur www.les400coups.org et sur nos réseaux sociaux. D'ici là, courez dans les salles. On se retrouve en septembre sur Radio Campus Angers, 103 FM. Bel été à vous. Salut Cécile.
À bientôt Georges.
Les 400 coups.
Une émission à retrouver en podcast sur www.radiocampusangers.com.